Du coup, pour ce matin, la veille de Noël, je vous invite à regarder avec moi un texte bien connu dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, versets 1 à 16, jusqu'au 16. Ésaïe 7, 1 jusqu'à 16 dans vos Bibles. Alors, je ne veux plus me plaindre de ces noms difficiles à prononcer de l'Ancien Testament, parce que ces enfants sont tellement bien chantés. Est-ce que les aigles veulent revenir et puis chanter ce texte, peut-être? Non, je rigole. Alors, Ésaïe 7, 1 à 16. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pekah, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger. Il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi et Sheher Yashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de bois fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie, du fils de Remalia. » De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Éphraïm et le fils de Remalia disent. Montons contre Juda, essayons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabaël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est à la tête de la Syrie et Retsin est à la tête de Damas. Encore 650, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe de l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes que vous laissiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom Emmanuel, Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains des deux rois sera abandonné. Amen. Est-ce que vous trouvez difficile de rester centré, focalisé sur le vrai sens de Noël? Je pense souvent les services comme ça, les cultes comme ça, c'est un peu ça le message du pasteur. Hein. N'oublions pas le cœur, le sens de Noël, parce qu'il y a tellement de distractions. Hein. Il y a des cadeaux, des repas, j'imagine là, maintenant, vous êtes en train de réfléchir peut-être dans plein de trucs. Je trouve que c'est vraiment très intéressant par rapport à ce texte, une annonce que Dieu nous a donné 700 ans avant Noël, déjà, ce n'était pas facile pour ce personnage principal de capter le vrai sens de ce que Dieu allait faire à Noël. En fait, ici, on a une histoire assez particulière, mais une espèce d'illustration de la mission que Dieu avait confiée à Ésaïe, un des prophètes plus importants dans l'Ancien Testament. Et cette mission est un peu bizarre, même un peu troublante. Si vous tournez juste à Ésaïe 6, le chapitre précédent, vers versets 9 et 10, Dieu avait confié à Ésaïe, il dit, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas rendre insensible le cœur de ce peuple. Une mission assez étrange, non? Et d'ailleurs, à des versets qui sont cités dans le Nouveau Testament pour les personnes qui sont confrontées avec la réalité de Jésus, avec la réalité de ce que Dieu est en train de faire, et veulent pas vraiment comprendre. Et je pense que c'est intéressant, à ce moment-là dans l'année, dans la culture française ici en Europe, on est confronté quand même avec les crèches, avec les cantiques de Noël, avec un sens que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, mais souvent, ça manifeste que nos cœurs sont endurcis, ou peuvent être endurcis. Et donc, je vous invite à regarder cette histoire bien avant, 700 ans avant Noël, pour nous aider à comprendre le défi, vraiment, de comprendre le vrai sens de Noël. Et donc, dans un premier temps, regardons un peu la peur de ce roi, chez ce roi Akaz. Deuxièmement, son cœur, le problème du fond. Et finalement, la solution, ce signe que Dieu va donner. Donc, on plonge dans cette histoire, on est dans une période en fait de guerre entre les différents deux parties d'Israël. Ah, est-ce que ça va marcher? Voilà. Et c'est intéressant parce que pendant plusieurs générations, le peuple vivait une paix, une tranquillité. Au niveau économique, ça allait très bien, une certaine stabilité. Et ce roi, il avait, son père avait vraiment une longue vie paisible. Et d'un coup, en fait, il avait un problème, une guerre qui s'est déclenchée. Et juste pour voir un peu la situation, on a les Assyriens, la grande nation au nord, qui monte en puissance. Et en fait, il veut dégager ces petites nations là autour d'Israël. Et donc, ils ont fait, ces pays-là, ils veulent se protéger vis-à-vis de la menace assyrienne. Et donc, on a le royaume du Nord en bleu, avec le royaume de la Syrie à côté. Et les deux rois se sont mis d'accord. On va créer une coalition pour confronter l'armée assyrienne. Vous suivez un peu? Et donc, ils ont mis une certaine pression sur Juda de rejoindre leur coalition pour être encore plus fort. Et le roi Akaz, il est roi à Jérusalem, en Judée, et il n'a pas accepté. Il ne veut pas. Donc, les deux disent, OK, on va attaquer, on va nous débarrasser de ce roi Akaz, on va installer un autre qui va être en accord avec nous. Comme ça, on peut réunir nos forces pour confronter les Assyriens. Et c'est dans cette situation-là, et c'est assez grave, on voit en deux chroniques, Pekah, fils de Remalia, ce même roi, il a tué d'un seul jour en Judée 520 000 hommes, tous vaillants parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Donc il y avait une guerre grave qui s'est déclenchée, il y avait pas mal de personnes qui sont mortes, et là maintenant, Akaz retrouve de nouveau confronté avec cette menace. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sort pour regarder son aqueduc. Vous avez remarqué ce détail? Et là, c'est le point très important. Parce que si une armée va assiéger une ville, ce qui est plus important, c'est votre source d'eau. Or, Jérusalem n'était pas très bien protégée parce qu'ils n'avaient pas une source à l'intérieur de la ville. C'était à l'extérieur. L'aqueduc qui portait l'eau à l'intérieur de la ville. Donc, il fallait juste que l'armée coupe cette source et la ville sera sans eau, vraiment en gros souci. Donc, vous imaginez la scène, le roi qui regarde, et cette menace de ces deux rois qui viennent pour assiéger la ville. Et c'est pas mal cette description. Vous êtes dans verset 2. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Il connaissait une grande stabilité dans sa vie, des années. Il faisait des fêtes à Pâques, pas Noël, mais... Et d'un coup, il est confronté à quelque chose beaucoup plus fort que lui. Et d'un coup, son cœur est agité comme les arbres dans le vent. Quand vous étiez gamin, est-ce que vous avez grimpé les arbres? On aimait bien grimper les arbres avec Sam. Et je me souviens, enfin, il y avait un gros arbre. On est monté, les branches, les bonnes branches, on avait l'air vraiment être bien, solide, parce que ça, c'était un gros arbre. Et du coup, on était assez haut, et du coup, il y avait un coup de vent. Vous avez déjà fait cette expérience? Vous êtes là, dans l'arbre, et du coup, vous voyez le sol qui bouge. Parce que le vent, ça pousse l'arbre, et tu dis, oh là là, ça avait l'air vraiment très solide. Mais là, maintenant, je sens que ça bouge, je sens qu'avant, ce que je pensais, c'était vraiment très très solide, et beaucoup moins solide. Et tu commences à faire les calculs. Alors, si ça bouge, à quel point est-ce que ces branches vont tenir, si le vent augmente. J'ai déjà vécu des situations comme ça, nos vies sont comme ça. Hein. On pense souvent les choses dans lesquelles nous trouvons une certaine sécurité, une certaine paix, une certaine base, fondation. Le vent peut arriver assez vite et on peut se rendre compte que, waouh, finalement, ma vie n'est pas du tout la même stabilité que je pensais. Ici, le roi se trouvait dans une situation de conflit. Des conflits, hein, des conflits pour nous aujourd'hui. J'ai regardé cette semaine le magazine Time. Ils ont fait un article sur les 100 meilleures photos de 2017. Et c'était des belles photos, les photos journalistiques. Ça m'a frappé quand même, parce que je pense 8 photos sur 10, c'est des situations de conflit. Triste. La guerre en Syrie, des attentats, des conflits aux États-Unis entre la police, etc. La manque des biens au Venezuela. Et là, ça c'est juste 2017, alors 2018, qu'est-ce qui nous attend, hein? Et pendant nos vies, quel est l'arbre sur lequel on place notre sécurité? Est-ce que c'est si solide pour ça, que ça? Et voilà, ce roi, il avait toute une vie, toute une génération, il était en plus le roi, le fils de David. Il avait les promesses de Dieu qui avaient dans sa ligne, sa postérité. Il savait, ah, Dieu est avec nous, parce que finalement, moi, je suis le roi dans la ligne de David. Il avait plein de raisons. Mais confronté avec cette menace, il a eu peur. Et la peur est une vraie réalité, même aujourd'hui, déstabilisante. Et là, il avait le cœur qui bougeait comme les arbres dans le vent. Mais il a un espoir parce que Ésaïe, le prophète, est là. Et deuxièmement, regardons le cœur de ce roi. Et donc, vous regardez en verset 4, là, le message Ésaïe, qui est le prophète, il arrive avec son fils, et un message pour le roi. Donc, et là, il regarde son aqueduc, cette source d'eau, et Ésaïe dit, verset 4, « Sois tranquille. » Voilà le message de la part de Dieu. « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de bois fumants. » Ouais, c'est des mots sympas, hein? Ne crains pas. Et vous vous rendez compte? On est dans une situation très chaude, niveau politique, international, de guerre. Et Ésaïe dit, en fait, ces deux rois, ils sont juste des deux bouts d'allumettes qui fument un peu. Il y a très peu de personnes qui ont peur devant une petite allumette qui s'éteint. Ça me fait penser au film de Shrek. Ça fait un moment, mais... cet ogre, hein, c'est un ogre, un bon ogre. Et les paysans veulent l'attaquer. Donc, ils arrivent, et avec les lampes qui fument, avec les lances et tout ça, ils arrivent. Et Shrek est là, et il fait avec ses deux doigts, psst, et il s'éteint, leur grosse lampe là, et ça déclenche, ils fuient, ils ont peur. Et d'une certaine manière, selon Ésaïe, ces deux rois, c'est une menace tellement forte en termes de vue, vision humaine, et que deux bouts de bois qui fument. Et Ésaïe invite Akaz à voir le monde comme Dieu le voit. Et avec cette vision, de vivre une paix. Sois tranquille, toi, Akaz. Ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas. Parce que ces deux rois sont que des petites allumettes. Et regardons bien, hein. En fait, il y a un certain parallélisme ici. Il dit « car la tête de la Syrie est la capitale, Damas. Et la tête de Damas est Redzin, ce roi, qui finalement est juste un homme, comme les autres, et assez faible. » Et de Ephraim, et Ephraim c'est un titre pour la nation d'Israël du Nord, le royaume du Nord, la tête d'Israël est la Samarie, la capitale. Et la tête de la Samarie est Pekah, ce roi, et lui aussi, il est juste un homme. Et par conséquence, la tête de la Judée, Juda, est la ville de Jérusalem. Et c'est qui a la tête de Jérusalem? Le roi Akaz. Et donc là, on voit en verset, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et ça, c'est le message pour Akaz le roi. Vous, ô roi, tu, ô roi, tu es faible, mais il y a une source sûre d'être en sécurité. Et c'est de croire dans ce que Dieu a dit. Et là, Ésaïe, il est très direct. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et c'est intéressant parce que en hébreu, c'est un peu le même mot avec une forme différente. Si vous ne vous tenez pas à ce que Dieu a dit, vous ne tiendrez pas du tout. Et ça, c'est intéressant, hein. La stabilité dans nos vies est directement liée avec notre relation avec la parole de Dieu. Avec ce que Dieu a dit. En fait, il ne s'agit pas d'avoir des super aqueducs ou des sources d'eau. C'est sympa, ça avait un rôle important. Mais Ésaïe le prophète, il voit que c'est plus loin que ça. Ce qu'ils avaient besoin, c'est d'avoir une relation claire, une croyance, une confiance dans ce que Dieu disait, ce que Dieu a dit. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et je pense que c'est fort, franchement. Aucun autre journal, le journal de Jérusalem, la gazette de Jérusalem à l'époque et tous les autres journalistes, personne n'aurait osé penser comme ces deux rois, comme juste les bouts de bois fumant. Mais là, Ésaïe dit, voilà, c'est comme ça. Et si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et après, il invite le roi à avoir cette confiance. C'est pas un piège. En fait, il dit, regardez en verset 10, l'Éternel parle de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Il faut que vous mettiez votre confiance en Dieu. C'est votre relation avec Dieu, avec sa parole qui compte, qui donne une stabilité. Alors, Akaz, c'est vous la tête de Jérusalem, la Jérusalem, la tête de la Judée. Alors, Dieu est pour vous, demande-lui. Il est prêt à te donner un signe. Et c'est triste, hein. Vous voyez la réponse d'Akaz en verset 12. Il répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Et c'est clair, voilà, la réponse d'Ésaïe, qu'il évite. Il évite, il ne veut pas. En fait, son souci est la protection de la ville. Toute cette histoire de faire confiance à Dieu, faire confiance à au prophète, de regarder le monde comme Dieu, ça, c'est pas ton truc, hein. Non, je vais pas t'enterrer. En fait, il cite Deutéronome, il se protège, même avec les versets bibliques, pour se proposer de vraiment mettre sa confiance en Dieu. Et là, retournons à Ésaïe chapitre 6. Vous vous souvenez ce que Ésaïe dit? Dieu a dit à Ésaïe avec cette mission un peu bizarre, « Va dire à ce peuple, vous entendez et vous ne comprenez pas point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rendez insensible le cœur de ce peuple. » Et là, on a le roi Akaz qui fait exactement ça. Il écoute Ésaïe, mais il ne comprend pas. Et même Esaïe veut dire, demande un signe. Dieu peut faire quelque chose. Ça peut être si haut que le ciel, si en bas, n'importe quoi. Afin que puissiez voir. Elle dit, non. Il est... En fait, il a le cœur endurci. Ce n'est pas juste une question d'évidence, de preuve. Il ne veut pas mettre sa confiance dans le Dieu qui lui a accordé une paix. Là, c'était une mission difficile, mais je pense avec dans le contexte de toute la Bible, cette mission était de relever le fait que le peuple Israël, en fait, avait un problème d'adoration. Ce n'était pas juste une question de communication, mais ils ne voulaient pas vraiment mettre leur confiance dans le Dieu vivant. Ils préféraient les idoles. Ils préféraient remplir leur vie d'autres choses. Imaginez ce soir, vous êtes invité à un super repas dans votre famille. Foie gras, super bon vin, les huîtres. C'est ça, on mangeait, c'est dans les huîtres. C'est votre spécialité toulousienne avec ça. Mais vous êtes un peu impatient et dans l'après-midi, vos enfants, ils ont une grosse carton de bonbons. Et même de bonbons pas chers. Premier prix, Aldi, juste du sucre, un peu de colorant. Mais pour une raison ou d'autre, vous commencez à manger. Et après 30 minutes, vous avez mangé complètement toute la boîte. Vous ne vous sentez pas super bien. Et c'est à ce moment-là, il faut aller manger le repas. Vous arrivez, et l'idée de manger du foie gras après avoir bouffé tout ce carton de bonbons, c'est un peu écœurant même. Donc ils ont un super repas, mais parce que vous avez déjà rempli avec ce qui n'est pas bon, il n'y a pas d'intérêt. Et d'une certaine manière, pareillement, je pense que Dieu avait donné un message. Dans l'ensemble d'Ésaïe, c'est un message de paix. Dieu règne, Dieu est le seul Dieu. Mais le peuple avait déjà rempli leur vie avec les choses d'une qualité terrible, avec une louange aux idoles. Ils se souciaient tellement de leur technologie, leurs aqueducs, leurs d'autres choses pour bien protéger leur vie, que vraiment d'avoir un intérêt pour écouter Dieu. Et Dieu doit dire à Esaïe, va, tu as une mission très difficile. Vous allez prêcher, mais vous allez finalement endurcir le cœur de mon peuple. Parce que le fond, il ne veut pas. Il ne veut pas changer, il ne veut pas se tourner vers moi et trouver la vraie vie. Et voilà un exemple fort dans ce roi Akaz. Lui, et c'est grave parce que c'est lui dans la lignée de David. C'est lui un peu la preuve que Dieu est avec son peuple. C'est lui qui était censé diriger le peuple vers la fidélité, dans la bonne voie. Alors, vous voyez le problème ? Le cœur du roi est endurci, il ne veut pas écouter le prophète. Est-ce que Dieu est vraiment avec son peuple? Est-ce que Dieu va être fidèle par rapport à ses promesses? C'est quand même une situation critique, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on voit dans cette histoire la solution que Dieu propose. C'est juste, elle est formidable. Verset 13, Esaïe dit alors, « Ok, écoutez donc, maison de David. » Est-ce trop peu pour vous laisser la patience des hommes, aussi laisser encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ok, vous voulez pas un signe? L'Éternel vous donnera quand même un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Alors, c'est un texte assez compliqué à interpréter. Pourquoi? Parce que c'est bien cité dans le Nouveau Testament, il s'agit de Jésus. Vous connaissez, je pense, bien Matthieu, on vient de lire dans le culte. Mais dans ce contexte, il me semble qu'il s'agit de notre enfant, non? Vous voyez verset 16, « Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains, les deux rois, sera abandonné. » C'est pas évident d'interpréter... cet enfant, il s'agit de qui finalement? Et là, on peut passer une heure, je peux vous démontrer toutes les différentes théories, thèses. Mais moi, je donne ma proposition, elle n'est pas du tout inspirée. J'ai donné un message similaire et puis le gars dit non, je suis pas d'accord David avec ton interprétation. Mais donc à vous de discerner. Mais moi je pense finalement dans le contexte qui fait plus sens, qui est une espèce de double accomplissement. Et la Vierge ici, dans un premier temps, il s'agit du peuple fidèle, du reste, du peuple en Judée, qui sont fidèles à Dieu. Et comme un exemple dans le temps premier, c'est peut-être un des fils d'Ésaïe qui va être cet enfant qui va grandir. D'ailleurs, dans le chapitre suivant, on a la naissance d'un fils. Mais qui est intéressant parce que, donc, est-ce qu'il s'agit juste de Jésus, juste fils à l'époque d'Ésaïe plus Jésus? Moi, je suis plutôt dans cette deuxième ligne. Et regardons comme déjà dans le livre, le peuple sont décrits comme une fille. On a déjà chapitre 1, la fille de Sion est restée. Verset 21, la cité fidèle est devenue comme une prostituée. En 37, la vierge fille de Sion, elle hoche la tête auprès toi. Verset 66, chapitre 3, 66, une nation est-elle enfantée? Ben, normalement, on ne part pas d'une nation qui enfante d'un seul coup. Et donc, je pense ici, il parle au roi, et je trouve assez fort, il dit... Dieu va te donner un signe, mais il ne va pas t'utiliser toi. En fait, il n'a pas besoin de toi, au roi. Toi, la tête, disons, de Judée, de Jérusalem. En fait, Dieu va agir lui-même. La Vierge, elle enfantera. Elle ne va pas avoir besoin des relations avec un roi, avec un homme. Elle enfantera. Dieu va agir lui-même. Elle va avoir une fils. Elle va produire la vie. Et cette vie sera la preuve que Dieu est avec son peuple. Oui, c'est catastrophique. Le roi a un cœur endurci. Il s'éloigne de Dieu. Mais Dieu dit, je reste fidèle. Et je serai avec mon peuple. La Vierge enfantera. Et là, on comprend à tel la beauté de la Bible, cette histoire tellement riche, tellement merveilleuse, que 700 ans plus tard, en fait, c'est finalement ça que Dieu a fait dans une manière encore plus... littéral et plus extraordinaire. Parce que, vous savez, le problème était grave. Même Ésaïe, qui fait partie de ce peuple fidèle, se reste. Dans chapitre 6, il dit, « Malheur à moi, je suis un homme impur et j'habite parmi un peuple impur. » Comment peut Dieu être vraiment avec son peuple? Avec son peuple pour accorder une vraie paix. Tant qu'il y a ce problème du péché, de rébellion qui, au fond, et même un roi qui prend la bonne décision, ça ne va pas forcément résoudre le problème de fond. Et c'est ça, 700 ans plus tard, on lit cette histoire de Marie, une jeune femme qui faisait partie de ce reste, ce peuple fidèle, et Dieu vient envers lui, c'est Marie, tu enfanteras. Et on a cette conception, cette naissance miraculeuse de notre roi. Un roi, pas comme le roi Akaz, mais un roi qui vient directement de Dieu. En fait, un roi qui est Dieu. Et peut-être je lis, hein, juste en Matthieu 1. Comme il pensait, s'il s'agit de Joseph, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Je lui dis, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce beau ici, c'est toutes ces personnes, ils se trouvent aussi dans une situation un peu compliquée. Joseph, Marie... Même dans le pays, hein, une tension entre ce roi Hérode, qui n'était pas très gentil, qui va tuer les enfants après. Et dans cette situation, il y a des personnes qui répondent à la parole de Dieu. Ils répondent, ils ne sont pas comme Akaz, justement. Leur cœur ne sont pas endurcis. Ils acceptent des choses assez extraordinaires. Joseph qui dit, ok, je vais faire une rupture avec Marie parce qu'elle est enceinte. Et puis Dieu lui parle. Non, non, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un message facile à comprendre. Et Joseph dit, ok, Après, l'ange vient à Marie et dit, Marie, tu vois un enfant. Et Marie dit, j'accepte que ce soit selon ta parole. Et les autres, là, il y a une communauté de personnes qui croient et qui acceptent la parole de Dieu. Et c'est là Dieu place ce miracle de son fils, pas né de juste une origine humaine, mais divine, et qui va lancer une nouvelle humanité, une nouvelle ère, quelque chose qui va finalement pourrait nous sauver. Et je pense, même pour conclure, aujourd'hui, je pense que c'est un signe, Jésus, l'histoire de Noël, c'est, on est un peu dans le même, même problématique qu'Akaz. Hein. Dieu, on a besoin profondément d'une profond renouvellement de l'humanité. On a besoin de quelqu'un qui pourrait vraiment nous sauver jusqu'au bout. Pas justement de nos bêtises, pas justement d'un certain conflit extérieur, mais de notre nature pécheresse, ce qui est au fond de nous. Et pour cela, il fallait un roi différent. Il faut un roi divin. Et il a été conçu, et cette conception miraculeuse est maintenant difficile pour beaucoup de personnes de croire. Vous croyez ça? Ça fait bizarre. Hein, c'est souvent un point de peut-être une moquerie par rapport à la foi chrétienne. Mais si on comprend cette réalité dans l'histoire globale de la Bible, et vis-à-vis de cette regard théologique, il est tout à fait logique, non? Il fait tout à fait logique. En fait, le fait de ne pas vouloir accepter ce fait que Dieu est venu en Jésus pour nous sauver, révèle un peu les cœurs qui sont les cœurs d'Akaz, qui ne veut pas croire, qui ne veut pas accepter, qui ne veut pas trouver en Dieu cette source de paix et de confiance. Donc ce Noël, c'est quoi qui vous tente d'être secoué comme un arbre dans le vent? Peut-être on ne sait pas, hein, il y a des choses qui vont nous arriver en 2018. Est-ce que vous avez dans votre vie une source de paix qui va au-delà de la nature humaine? C'est-à-dire juste au-delà des solutions humaines, quelque chose qui est ancré, même au-delà de la mort. Si vous n'avez pas, je vous invite à regarder de nouveau l'histoire de Noël, ce roi qui n'est pas fondamentalement juste humain, mais qui est aussi divin, et qui est Dieu avec nous. Matthieu commence avec ça, il l'appelait Dieu Immanuel. Matthieu termine son évangile, son récit de l'histoire de Jésus en disant, Jésus dit à ses disciples, « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Vous savez pourquoi c'est possible que Dieu est avec nous? Parce qu'en Jésus, Dieu a pris notre faute, pris notre péché. En fait, à la croix, Jésus dit, « Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus était rejeté pour nous, afin qu'il soit toujours Dieu avec nous. Immanuel, aujourd'hui, ce n'est pas facile à croire, il y a beaucoup d'éléments, mais c'est une invitation de considérer, parce que c'est logique, ça fait du sens, et c'est la seule fondation, c'est la seule source d'une paix qui est imperturbable. Une paix qui va durer, qui n'est pas secouée, comme les arbres dans la forêt de l'Avent. Donc, louons, adorons, et que le Saint-Esprit travaille nos cœurs, parce que c'est vrai, c'est un défi de se souvenir du sens, du vrai sens de Noël, mais qu'il nous aide de nouveau cette année à être émerveillés. Parce qu'en ce petit enfant, on a Dieu avec nous.